Bonjour à chacun. Soyez tous bienvenus dans la maison du Seigneur, que ce soit la première fois ou, j'allais dire, presque que ce soit votre seconde maison ici. Vraiment, on est heureux de passer du temps dans la présence de Dieu et on en a besoin, n'est-ce pas, les uns et les autres. Alors ce matin, le pasteur Patrick Bertalon a été réclamé pour pouvoir assurer la traduction d'un prédicateur étranger, donc il est absent donc, tout le week-end. Et vous le savez, beaucoup de sœurs parmi nous aussi sont parties à Margueron. Voilà, nous croyons aussi qu'elles passent un temps béni durant tout ce week-end. Voilà, que le Seigneur encore dans cette journée eh bien, les visite, les restaure, les bénisse vraiment ensemble. J'aimerais ce matin, si vous le voulez bien avec vous, finir avec Timothée. La dernière fois, il y a, je crois, peut-être 15 jours, 3 semaines de ça, j'avais parlé de Timothée concernant les différents obstacles qu'il a rencontrés dans sa vie et comment il a su les surmonter avec cette question de fond, pourquoi et comment Timothée est devenu Timothée. Voilà, outre le fait qu'il a bien mangé, qu'il a eu une bonne croissance, voilà, il est passé au travers de divers maux, etc., nous avons vu qu'il a su surmonter dans sa vie plusieurs types d'obstacles, de par sa naissance, son origine, puisqu'il était à la fois né donc d'un père grec et d'une mère juive, avec tout ce que cela signifie à l'époque. Il était issu donc d'une famille où sa maman était croyante et son papa était un croyant. Sa jeunesse également en rapport à ses responsabilités. On lui a confié beaucoup de responsabilités jeunes et on sait que ça peut parfois être un peu compliqué pour lui, mais aussi dans le regard des autres. Également les limites de son caractère qu'il a su surpasser. Un garçon, semble-t-il, réservé, très réservé, trop conciliant et puis parfois enclin à une certaine nonchalance. Et aussi des limites par rapport à sa santé. Donc Timothée a su, tout au long de sa vie, eh bien, surmonter l'ensemble de ces différents obstacles. Et nous allons voir encore ce matin comment, au travers de ses dispositions personnelles, comment, au travers de ses choix personnels, eh bien, il a su, comme il porte si bien son prénom, honorer Dieu. Timothée signifie « celui qui honore Dieu ». Comment il a su honorer Dieu ? Comment il a su faire des pas que peut-être d'autres n'ont pas fait ? Et comment il a pu réaliser le plan de Dieu dans sa propre vie ? Nous croyons que Dieu a des plans préparés d'avance pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on le réalise ce matin ? Afin que nous les... Pas simplement que ça vienne à notre pensée, pas simplement qu'on soit conscient d'un certain nombre de choses, d'une certaine potentialité, mais qu'on puisse rentrer dans les réalisations de ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu est capable de faire, comme il a été capable de faire dans la vie d'un jeune homme qui, semble-t-il, avait quelques freins personnels. On voit que quand Dieu prépare quelque chose dans un cœur, Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu ne se trompe pas avec vous. Il ne se trompe pas avec chacun d'entre nous, mais bien au contraire, il désire aller au bout des choses et le Seigneur accomplit ce qu'il dit toujours. Que Dieu soit béni pour ça. On va lire, si vous le voulez bien, trois textes ce matin. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 et 19. Nous les avons lus déjà la dernière fois. Mais je reprends ce texte ce matin. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Acte 16, versets 1 et 2. Voilà, acte 16, versets 1 et 2, et nous lisons. Il se rendit, c'est-à-dire l'apôtre Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Philippiens chapitre 2, verset 19, dernière lecture. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Amen. On va prier quelques instants. Notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons ta parole ensemble, Seigneur, nous voulons te prier que cette parole nous parle, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos situations, dans notre vie. Nous te prions, Seigneur, que notre esprit soit attentif. Et nous te prions, Seigneur, que, au travers de l'Écriture, Seigneur, nous puissions encore être interpellés les uns et les autres, au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir ensemble ce matin les dispositions de cœur de Timothée. Tout d'abord, vous avez remarqué qu'on rendait de lui un bon témoignage. Dès le début de son engagement dans la vie chrétienne, eh bien, on rendait de Timothée un bon témoignage. Il est co-auteur de plusieurs des lettres du Nouveau Testament, donc écrites par l'apôtre Paul, et il est nommé en introduction comme étant co-auteur également. Et pourtant, jamais, jamais il ne se met en avant, à aucun moment. En revanche, d'autres vont parler de lui. Luc va parler de lui au travers de la lettre donc des Actes des apôtres. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, va parler de lui. On parle de lui aussi dans la lettre aux Hébreux. Plusieurs parlent de lui, et quand on parle de Timothée, on parle toujours de bien de Timothée. Partout où il est passé, et là on a là un témoignage de plusieurs années de sa vie, partout où Timothée est passé, il a laissé une bonne marque. Dès le départ de son engagement de la vie chrétienne et dans la suite. Alors, bien sûr, ça nous pose cette question pour chacun d'entre nous. Quelle marque laissons-nous après notre passage quelque part? Quelle marque laissons-nous dans la vie de ceux qui nous sont chers, avec qui nous partageons la vie? Quelle marque, quel témoignage laissons-nous dans notre propre assemblée? Quelle marque laissons-nous dans le milieu dans lequel vous évoluez, dans votre travail, peut-être à la fac pour quelques-uns, dans votre entourage, dans votre voisinage? Que dit-on de nous? C'est important de le comprendre. Quelle marque laissons-nous dans nos paroles, dans nos attitudes, mais aussi dans nos actes? On est tous conscients ici que certains traits de notre caractère nous jouent parfois des tours. C'est vrai ou pas? On se dit « là, j'aurais mieux fait de me taire ». Là, j'aurais mieux fait de rester couché. Là, j'aurais mieux fait de ne rien faire, justement. Oui, mais c'est fait. Lorsqu'une vie est touchée par le Seigneur, elle se laisse transformer par son Seigneur. Et s'il est vrai que nous avons tous besoin de progresser, on en est tous conscients. Nous savons que notre vie, lorsqu'elle est dans les mains du Seigneur, elle ne peut que progresser. Et Timothée avait ces dispositions de cœur dès le départ, d'être quelqu'un qui aime son Seigneur et qui, au travers de sa vie, laisse quelque chose de positif autour de lui. Alors que ce soit également ce qui est sur notre cœur. Vous savez, pas simplement le fait de faire bonne impression. Certains disent que la première impression que l'on a de quelqu'un, c'est celle qui reste marquée. C'est vrai, ça peut être vrai, mais en même temps, ce qui est important, c'est aussi le témoignage dans le temps. Parce que si on avait dû regarder simplement Timothée au premier abord, vous savez, quelqu'un qui est un peu réservé, c'est pas toujours facile de rentrer en contact avec quelqu'un de réservé. Vous dites, mais bon, comment il faut faire? Il n'est pas facile à approcher, celui-là. Si on aurait pu rester sur cette impression-là. Mais sur le temps, Timothée laisse un témoignage positif. Alors que dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre attitude dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, que nous puissions mettre un point d'honneur aussi, à dire, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, je veux laisser la marque d'un enfant de Dieu. Et c'est ce que Timothée a fait. Dans les exhortations de l'apôtre Paul va lui rappeler l'importance d'avoir un cœur pur. Il lui dira en introduction de la première lettre qu'il va lui écrire, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. » Et il lui expliquera un peu plus tard, et probablement que dans tous les échanges qu'ils ont eus, vous savez qu'ils ont partagé la même équipe missionnaire pendant un temps, donc il y avait tous ces temps de transfert, tous ces moments de voyage, tous ces moments où ils ont pu partager, ils ont pu voir même les petites habitudes de chacun, qui deviennent d'ailleurs des sujets de pouvoir taquiner l'autre à certains moments, en disant « tiens, ça y est, il va encore nous faire ça », ou etc. Mais au-delà de tout ça, ils ont pu aussi beaucoup partager à propos de l'œuvre de Dieu. Et c'est simplement un rappel qu'il lui a fait lorsqu'il lui écrit dans 2 Timothée chapitre 2, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Alors, dans ce passage, on pourrait se dire, mais oui, on est conscient qu'il y a les croyants et les incroyants. Non, non, le contexte de ce passage, ce n'est absolument pas ça. Le contexte de ce passage concerne l'Église. Et l'apôtre Paul va dire que dans l'Église du Seigneur, il y a des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. Il va lui faire ressortir une vérité. Alors, ça pourrait nous faire frémir en quelque sorte. Et lorsqu'il dit s'abstenir de ces choses, il parle de l'iniquité sous toutes ses formes. On rend ce témoignage de Timothée qu'il a été un vase d'honneur. Et notre vie peut être aussi sale, elle peut être endurcie, elle peut être amère, avec toutes sortes de conséquences dans notre vie. Et Timothée a eu ce point d'honneur de pouvoir dire « Je veux être un vase utile dans les mains du Seigneur. » Et il a été ce vase utile. La question c'est « Sommes-nous aujourd'hui plutôt un vase utile dans les mains du Seigneur, là où nous sommes ? Sommes-nous ce vase d'argent, d'or précieux entre les mains du Seigneur ou alors... sommes-nous peut-être encore ce qu'on appelle ce croyant charnel, attaché aux choses de la terre ? Le seul moyen pour demander à Dieu son aide et sa force, le seul moyen pour demander à Dieu de dire « Seigneur, oui, je suis inutile », de lui dire « Seigneur, rends-moi utile dans tes voies, rends-moi utile, Seigneur, pour ton œuvre ». Que je sois un vase, Seigneur, dont vraiment tu puisses dire ce vase, il est précieux. Le seul moyen, c'est de venir à la croix. C'est de revenir à la croix. Le seul moyen, c'est de pouvoir dire, Seigneur Jésus, transforme encore ma vie. Seigneur Jésus, je suis à tes pieds. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, conscient de mes limites, conscient de mes faiblesses, conscient de tout ce qui ne va pas à certains moments dans ma vie, conscient de mon endurcissement, conscient... de mes mauvaises paroles, mais Seigneur, viens me laver, viens me transformer, viens faire de moi une personne utile dans ton royaume. Alléluia ! Alléluia ! Vous savez, beaucoup commencent, et l'apôtre Paul en parlera, de ceux qui ont un temps marché et puis qui ont abandonné pour les raisons qui étaient les leurs. Ils ont abandonné, ils ont cessé des personnes qui étaient probablement des vases précieux à un certain moment et qui sont devenus par la suite vils. Comme quoi c'est important d'avoir toujours cette vigilance dans notre cœur, de pouvoir dire, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui encore, je suis un vase précieux entre tes mains ? Est-ce que je suis encore malléable ? Est-ce que mon cœur peut être encore touché et transformé par toi aujourd'hui ? Une autre chose à laquelle l'apôtre Paul va lui rappeler, c'est le fait d'avoir une foi sincère et une bonne conscience. Nous l'avons lu, déjà gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. L'apôtre Paul lui rappellera dans ses lettres l'importance d'avoir une vie de piété. Exerce-toi à la piété, il va lui dire. 1 Timothée 4, 8, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. Sa foi sincère et sa conscience pure est alimentée par le fait que Timothée a ce qu'on appelle une saine doctrine. Il a ce qu'on appelle un enseignement qui est juste dans sa vie. Et il l'a, il le reçoit et il l'entretient parce qu'il est attaché à l'Écriture, il est attaché à la parole de Dieu. Il est attaché à l'enseignement juste et pur qu'il a reçu. Il ne s'en détourne pas, si bien qu'il a développé dans sa vie un regard juste sur le comportement, un regard juste sur sa vie, sur sa communion avec Dieu. L'apôtre Paul lui dira « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. » Voilà une bonne sauvegarde dans sa vie. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de perdre déjà vos données. Ce sont des mauvais souvenirs, généralement. Vous vous dites « Mais un an de travail, 4 années de photos familiales, si seulement j'avais fait mes sauvegardes. » Quoiqu'un jour, un pasteur, en voulant sauvegarder ses données, apparemment, non seulement son ordinateur a craché, mais le disque qui était attaché pour la sauvegarde a craché en même temps. Vous voyez, même quand on veut faire des sauvegardes, on n'est pas sauvegardé, malgré tout. Mais voilà que Timothée a entretenu ce qui est bon, ce qui est juste dans sa vie. Et parce qu'il l'a entretenu, il a pu continuer sa course quand d'autres se sont arrêtés, quand d'autres se sont détournés. L'apôtre Paul lui dira « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » 2 Timothée 3. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On sait aujourd'hui qu'un certain nombre, c'était déjà le cas à l'époque, rien n'a changé aujourd'hui, ce sont juste les outils, les moyens qui changent, mais un certain nombre de confessions remettent en question beaucoup de choses, remettent en question ce qui est bien de ce qui est mal, alors que c'est clairement tranché dans la parole de Dieu, remettent en question l'enfer et le paradis, remettre en question l'autorité de la Bible, remettre et parle d'interprétations tout à fait particulières de certains passages. Nous voyons un certain nombre de pratiques plus que douteuses. Il me semble qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de s'attacher à la parole du Seigneur et non pas à tout vent de passage. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'un autre évangile. C'est de venir en communion avec le seul vrai Dieu, le seul Sauveur, le seul Seigneur. La Bible dit même, et l'apôtre Paul préviendra Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quel est le résultat de cela ? Non seulement beaucoup se laissent séduire, mais ils finissent par s'égarer. Et c'est bien là, parfois, le drame. Après avoir marché avec le Seigneur, tout ça pour essayer de vivre des sensations particulières à un moment donné, tout ça pour penser avoir compris quelque chose que pendant 20 siècles, les autres n'avaient pas compris, apparemment. Et on se laisse prendre. Si bien qu'à un moment donné, on finit aussi par s'égarer. Timothée avait compris que l'important était de plonger ses regards dans la saine parole du Seigneur, de la laisser transformer sa vie, de ne pas l'adapter à sa situation, de ne pas l'adapter à ses pensées propres, de ne pas l'adapter au siècle présent. Non, non, non. Et de la vivre telle qu'elle est. Parce que c'est bien là où Dieu nous attend. C'est de pouvoir vivre la parole de Dieu tel qu'il nous l'a enseigné. Et s'il nous l'a enseigné, c'était possible au premier siècle, et c'est toujours possible au 21e siècle. Alléluia. Amen. Dieu fait ce travail dans notre cœur si nous le laissons agir. Ensuite, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a toujours accepté et reconnu son besoin de formation et a accepté de recevoir des conseils, même après plusieurs années de service. Dans Actes 16, nous voyons un jeune homme qui rejoint donc tout un groupe missionnaire, un jeune homme sans expérience. Et lorsque l'apôtre Paul lui écrit la lettre donc à 2 Timothée, on est plusieurs années plus tard, et si je peux dire, il a déjà roulé sa bosse en quelque sorte. Plusieurs années se sont écoulées, il a fait un certain nombre de missions, s'est déplacé dans un certain nombre de villes, a lui-même aidé dans bon nombre de situations, il a été mis en responsabilité et pourtant, il accepte de recevoir des conseils de l'apôtre Paul. Il garde toujours ce même état d'esprit. Il reste malléable, il reste façonnable. Il est semblable à de l'argile dans les mains du potier. Vous vous souvenez de ce passage-là ? Va à la maison du potier. Que nos vies restent toujours malléables dans les mains du Seigneur. C'est facile à dire, et ce n'est pas toujours facile à vivre. Lorsque la main du Seigneur vient pour dire il y a des choses qui ont besoin de changer, et là on ressent comme une sorte de pression, comme le travail du potier, vous savez, sur l'argile. Les mains du potier exercent une certaine pression sur l'argile. Oh, elle n'est pas en continu. Vous avez remarqué le travail du potier ? Elle n'est pas en continu. Vous savez, c'est par à-coups successifs. On façonne, on travaille, on modèle. Et le Seigneur vient à nous. Il frappe à la porte de notre cœur. Il nous interpelle, il nous parle par son Saint-Esprit. Et il vient pour nous dire, il faut que le vase change d'allure. Il faut que le vase puisse être développé. Il faut que notre vie prenne à certains moments une autre tournure dans la main de notre Seigneur. Et Timothée a accepté cela tout au long de sa vie, tout au long de ses années. Il accepte encore qu'il y ait cette main du potier dans sa vie pour l'aider afin qu'il puisse aller vers l'excellence. N'est-ce pas ce que nous voulons dans notre vie ? Vivre cette excellence dans le Seigneur. Est-ce qu'on est pleinement satisfait de notre communion avec le Seigneur ? Est-ce qu'on est pleinement satisfait de ce que l'on vit avec Dieu ? Je vais répondre pour moi, je ne vais pas le faire pour vous, mais je vais vous dire, j'ai soif de davantage de Dieu. J'ai soif de vivre davantage la présence de Dieu. J'ai soif de connaître mon Seigneur tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien connu jusque-là. Vous et moi, on a eu des expériences fortes jusque-là. Mais on doit se dire et on doit s'avouer les uns les autres qu'il nous manque encore quelque chose. Qu'on a besoin vraiment d'être auprès de notre Seigneur. Mais ça veut dire aussi qu'à certains moments, le Seigneur va venir et puis il va dire attention parce que ça ne va pas. Est-ce qu'on est prêt à le corriger ? Est-ce qu'on est prêt à l'entendre ? Est-ce qu'on est prêt à corriger certaines directions, certaines pensées que nous avons dans notre cœur ? Là où beaucoup disent « je sais », Timothée dit « je suis prêt à écouter ». L'apôtre Paul a fait plusieurs rappels à Timothée. Il lui a rappelé notamment son témoignage de conversion, ou peut-être de baptême. Je ne sais pas si à l'époque, au moment du baptême, les personnes témoignaient comme on le fait, en tout cas ici, chez nous, ou bien s'il a eu l'occasion de témoigner peu de temps après sa conversion. Mais l'apôtre Paul va lui dire « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Il lui rappelle ce moment où peu de temps avant, il a donné sa vie au Seigneur et où publiquement il a pu dire « Voilà, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a changé, Dieu m'a donné une raison vraiment de vivre. J'ai pour destination la vie éternelle. » Et puis il va lui rappeler aussi dans les Écritures un autre moment important de sa vie, le moment de son appel et de sa consécration au service de Dieu. Dans 1 Timothée 4,14, « Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Un moment où il a été mis à part. Ce pourquoi, eh bien, le Seigneur l'a appelé. Il a été mis à part. C'est un moment particulier, solennel, où on a pu lui dire, bien voilà, on reconnaît en toi ce que Dieu vraiment a mis, parce qu'on l'a vu, on en voit le fruit, et maintenant tu es comme un envoyé des assemblées. Pourquoi il lui rappelle cela? Non, c'est pas que Timothée le sait déjà, c'est sa vie après tout. Et pourquoi il lui rappelle? Pourquoi on a besoin de se rappeler de ces moments forts vécus dans notre vie à certains moments? Certainement parce que, et l'apôtre Paul le sait, au travers de son service, au travers de sa vie, les occasions d'être découragé ne vont pas manquer. Les occasions de vivre des temps d'épreuve, des moments peut-être de doute, ne vont pas manquer dans sa vie. C'est pourquoi il lui dit, rappelle-toi. Rappelle-toi de ce moment où Dieu a touché ton cœur. Rappelle-toi de ce moment où tu t'es engagé, où tu as marché avec Dieu. Au moment où, eh bien, nous t'avons donné comme notre confiance et où nous avons prié pour toi, où nous t'avons libéré ce pourquoi Dieu t'a appelé. Rappelle-toi de ces moments-là. Afin que dans les jours difficiles, il puisse se dire, oui, je me rappelle que Dieu m'a appelé. Je me rappelle qu'il m'a appelé pour le salut. Je me rappelle qu'il m'a appelé pour des œuvres préparées d'avance afin que je les pratique. Et je crois que c'est important. Je sais que nos sœurs le font beaucoup. Parfois, elles notent sur des cahiers ou sur des feuilles. Peut-être des paroles que vous avez reçues, des moments où le Seigneur vous a parlé personnellement. Et dans les jours difficiles, on ressort le petit cahier et on dit, oui Seigneur, je me souviens de cette parole. Elle est encore là dans mon cœur. Et il n'est pas question de lâcher. Il n'est pas question d'abandonner. Il n'est pas question de laisser à terre, Seigneur. Parce que celui qui a commencé cette œuvre, il la poursuivra jusqu'au bout. Alléluia. C'est pourquoi c'est important aussi dans notre vie de ne pas oublier ces moments particuliers de visitation que vous avez connus. Ces moments particuliers où peut-être vous avez pris un engagement solennel devant Dieu à un certain moment, peut-être dans les larmes, dans un temps d'appel, seul devant le Seigneur, de pouvoir repasser ces choses dans votre cœur. Lorsque vous êtes dans la vallée, lorsque vous êtes dans cette vallée du découragement, lorsque vous êtes dans ces moments de tension et que vous ne savez plus où aller de droite et de gauche, de pouvoir dire « je me souviens de ce moment-là ». Je me souviens de mon grand-père qui m'avait dit un jour, alors que je lui avais dit, tu sais, voilà, on va aller faire les gorges du Tarn. J'avais fait cette année-là plus de 100 km sur ces gorges en plusieurs fois en canoë. Et puis je lui ai dit, voilà, on est passé dans tel et tel village. Puis à un moment donné, il m'arrête. Il m'avait dit, oui, je me souviens de ce village-là. Parce que sous ce pont, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Il ne m'a jamais dit par pudeur ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Mais probablement, dans ce temps-là, ce jour-là, je ne sais pas s'il avait promené le chien. Je ne sais pas s'il s'était retiré quelques instants pour s'asseoir au bord, sur la petite plage, au bord de l'eau, sous ce pont, pour simplement dire à Dieu, mais voilà, je te dépose telle ou telle chose. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu s'est révélé à son cœur. Et ceci est resté comme gravé tout au long de sa vie et l'a probablement aidé à repartir. Et nous avons tous de ces moments-là. Alors béni soit Dieu pour cela. Quand les autres s'arrêtent, Timothée trouve dans son Seigneur les ressources pour poursuivre sa route. Un autre point qui caractérise la vie de Timothée, c'est le fait qu'il a été capable de développer une amitié solide, avec notamment l'apôtre Paul. Un commentateur a écrit « Heureux le jeune serviteur de Dieu qui a un tel père » en parlant de l'apôtre Paul, et « Heureux le responsable chrétien qui a son carquois rempli de tels véritables enfants. » L'apôtre Paul, nous le savons, est pour lui un conseiller, il est un père, il est un cher ami, et vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul va lui dire « Eh bien, viens au plus tôt vers moi. » L'apôtre Paul sent qu'il est sur ces derniers mois, ces dernières années, dit « Viens ou plutôt vers moi, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Et quand plusieurs ont abandonné l'apôtre Paul dans leur vie, Timothée est resté fidèle. Quelle sorte d'amis sommes-nous ? Sommes-nous des amis de circonstance ? Sommes-nous des amis par intérêt, le temps que ça nous profite ? Ou bien sommes-nous des amis pour la vie ? La parole de Dieu nous dit que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il se montre un frère. Alors dans l'amitié, on a besoin de dépasser, vous savez, certaines barrières, celles parfois de l'incompréhension, celles parfois « mais tu aurais dû » et puis etc. Ils ont su traverser tout cela pour dire « nous, on reste ensemble parce qu'on aime Dieu, on se connaît l'un l'autre ». Ils ont su apprendre, comme certainement beaucoup, le pardon mutuel. N'est-ce pas ce que nous désirons aussi dans nos amitiés ? Dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Apprendre aussi, non pas à être sec et séparé, mais pouvoir dire, tant que cela dépend de moi, moi je veux rester un compagnon fidèle. Je veux rester un ami. Un ami dans l'épreuve, un ami dans les bons jours comme dans les mauvais. Une amitié solide. Un dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est le grand intérêt qu'apportait Timothée pour l'œuvre de Dieu. Nous l'avons lu en introduction tout à l'heure. L'apôtre Paul dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Là, on parle d'ouvriers dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit « J'ai besoin de quelqu'un pour aller à Philippe parce qu'il y a un besoin là-bas et j'ai personne. » Ils veulent tous en faire qu'à leur tête. Ils veulent tous aller peut-être là où il y a un réveil particulier. Ils veulent tous, mais quand on a besoin de quelqu'un, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Timothée était prêt à se rendre à Philippe s'il fallait aller à Philippe. Timothée était prêt à aller auprès des Éphésiens s'il fallait aller auprès des Éphésiens. Et Timothée était prêt à aller chez les Corinthiens. Et on le sait, ce n'était pas un cadeau. Il était prêt à aller chez les Corinthiens s'il fallait aller chez les Corinthiens. Pourquoi ? Parce qu'il aime l'œuvre de Dieu. Et si vous regardez, ce sont des localités qu'il a toutes visitées auparavant dans ses voyages missionnaires. Toutes. Et vous savez, son intérêt à lui, ce n'était pas de dire « mais oui, je connais cet endroit, c'est bien placé géographiquement, il y a même un intérêt culturel, voire même culinaire, pourquoi pas ?» Non, non, non. Pour lui, ce sont des personnes qu'il a vues. Ce sont des visages qui sont dans sa mémoire. Ce sont des églises qu'il porte sur son cœur et pour lesquelles il prie. Si bien que quand on dit « Timothée, on pense à toi pour aller là-bas », vous savez quoi ? Il dit « moi, j'y vais ». Et pourtant, à certains moments, c'est vraiment pas un cadeau pour lui. C'est difficile, le contexte est compliqué. Et j'imagine que dans le transfert pour aller à Corinthe, il a dû s'en passer des choses dans sa tête. Parce que entre dire oui et puis ensuite faire le déplacement et arriver sur place, il a dû prier. Il a dû dire à Dieu, j'espère que tu es vraiment avec moi là. Mais il y est allé, parce qu'il aime l'œuvre de Dieu. Et parce qu'il aime l'œuvre de Dieu, il est prêt à faire ce que d'autres ne sont pas prêts à faire. Il est prêt à accomplir des tâches que les autres ne sont pas prêts à accomplir. Parce que l'intérêt qu'il a, ce n'est pas son intérêt personnel. Lui, il est sauvé et il aime son Seigneur. Et quel que soit le contexte, ça ne changera rien pour sa vie. Mais s'il le fait, c'est pour les autres. S'il le fait, c'est pour le bien de l'Église. S'il le fait, c'est afin que les œuvres de l'adversaire tombe. C'est afin que l'œuvre de Dieu luise et reluise, qu'elle soit mise en éclat, et que toutes les œuvres de l'adversaire soient détruites, soient anéanties, afin que les projets qui avaient été formés pour détruire l'œuvre, notamment à Corinthe, soient mis à néant. Voilà pourquoi Timothée l'a fait. Peu importe pour lui l'état spirituel, peu importe pour lui la tâche à accomplir, il part, et vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, vous avez à aucun moment Timothée se plaint, et à aucun moment Timothée ne revendique quoi que ce soit. Ah non, pas encore moi. Ah non, chaque fois qu'il y a un plan galère, c'est pour moi. Non, non, il y va. Il y va. Et il le fait. Il le fait. Alors lorsque les autres poursuivent leurs intérêts personnels, Timothée continue à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Alors si on se pose la question pourquoi Timothée est devenu Timothée, on comprend un peu mieux que c'est quelqu'un qui a fait des pas que les autres n'ont pas fait. Et il me semble que les uns les autres, c'est ce à quoi à certains moments Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à faire des pas peut-être que nous n'avons pas fait jusqu'à un certain moment. Pouvoir dire à Dieu, oui, c'est vrai, je t'ai donné mon cœur, ma vie, je suis sauvé, mais suis-je un vase d'honneur? C'est vrai, Seigneur, tu as fait ton œuvre dans mon cœur, mais suis-je quelqu'un qui est prêt à te dire oui sans imposer mes conditions personnelles? Quoi que tu me demandes, Seigneur, je te dis oui. Sommes-nous de ces personnes qui continuons à plonger nos regards dans la parole, dans la sainte parole de Dieu, et qui ne se laissent pas monter la tête de droite et de gauche par des doctrines divergentes, par un tas de superfuges qui peuvent venir? Mais Seigneur, je veux plonger ma vie dans la sainte parole de Dieu, parce que c'est mon seul moyen de pouvoir, dans le temps, continuer à faire ton œuvre de manière fiable, de manière juste, Seigneur. Voilà pourquoi Timothée est devenu Timothée. Il a franchi ses obstacles personnels. Il a laissé sans arrêt un bon témoignage. Il a développé une foi sincère et une conscience pure dans sa vie. Il a toujours été conscient de son besoin de formation et a continué à écouter les conseils dans sa vie. Il est resté un ami fidèle. Il a eu un intérêt, un grand intérêt pour l'œuvre de Dieu, plus qu'à titre personnel. Voilà les fondations sur lesquelles Timothée s'est reposé afin que Dieu soit honoré. Il a été, on peut le dire, à l'image de son modèle. Et son modèle par excellence, ce n'est pas l'apôtre Paul, même s'il a bien sûr marqué sa vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et quand on retrace ces différents points, oui, on reconnaît bien là l'original. On reconnaît l'original. Alors que nos vies soient également des vies où nous puissions dire, eh bien, Seigneur Jésus, tu es mon modèle et je veux encore apprendre de ce modèle. Il y a peut-être des pas que nous avons du mal à faire. Seigneur, aide-moi à faire ces pas. Si nous voulons entrer dans les œuvres préparées d'avance par le Seigneur, eh bien, nous avons besoin de faire des pas que peut-être nous n'avons pas fait jusque-là. Si en tant qu'Église, nous voulons encore vivre une autre dimension de la gloire de Dieu, il y a des pas que nous devons faire ensemble que peut-être nous n'avons pas fait jusque-là. Par la foi dans le Seigneur, en disant « Oui Seigneur, je me donne à toi, je me consacre à toi encore aujourd'hui, parce que je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas aller pour mon intérêt, mais Seigneur, l'intérêt c'est l'œuvre de Dieu. Et seulement cela, je veux apprendre à aimer là où les autres s'arrêtent d'aimer. Aide-moi à aimer ceux que je n'arrive pas à aimer, Seigneur, aujourd'hui. Aide-moi à le faire, Seigneur. Aide-moi à le faire. » Que Dieu nous aide ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier un instant le Seigneur et dire à Dieu que ses qualités soient trouvées en moi, qu'elles soient trouvées au milieu de nous avec abondance. Notre Dieu, notre Père, nous sommes conscients, Seigneur, de nos lacunes, de nos faiblesses, de nos freins à certains moments. Et Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Et si certains, Seigneur, ont pu vivre des choses que d'autres n'ont pas vécues, c'est parce qu'aussi ils s'en sont donné les moyens en te suivant, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons intellectualiser beaucoup de choses, et là où tu nous attends, c'est sur des pas, c'est sur des engagements personnels et sur une vie qui, Seigneur, t'appartient. Je veux te prier de nous aider, Seigneur, à développer une conscience pure, un cœur pur, Seigneur, pour toi. C'est tellement facile dans le siècle présent de vivre une vie légère spirituellement, de vivre simplement une vie chrétienne d'apparat. Mais Seigneur, je veux te prier que tu trouves en nous des cœurs qui t'honorent. Je veux te prier que tu trouves en nous, Seigneur, des personnes qui te disent oui, qui se laissent encore façonner, malgré les années, Seigneur, passées avec toi. Que tu trouves des cœurs malléables. Que tu trouves des vies, Seigneur, qui soient prêtes à te dire, Seigneur, oui. Je te dis oui, sans poser mes conditions, mais Seigneur, je te dis oui. Parce que nous savons que lorsque tu es avec nous, tout est possible, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, aide-nous à le vivre. Au nom de Jésus. Amen.